Nous commençons la seconde leçon sur notre introduction dans un domaine dont parfois on parle parfois d'initiation au droit. Disons que c'est une introduction à l'étude du droit et nous sommes dans une première partie élémentaire ou générale. Là, nous avons vu l'organisation de l'État et nous passons à la documentation. La transition, elle se fait en douceur, dans la mesure où, avec la documentation, nous sommes à nouveau confrontés à ce qu'on appelait, d'un terme latin, un corpus, un corps. De même que l'État, dans ses différents, avec ses différents membres, constitue un grand corps, plus impressionnant encore finalement, et peut-être qui a plus d'importance et plus de poids que ce corps que l'on ne peut qu'imaginer, il y a le corpus du droit. Bon. Et c'est comme ça qu'apparaît le droit en fait, comme un ensemble d'écrits. Voilà. Le droit a beaucoup à voir avec la parole et en particulier avec l'écriture. Et qui dit droit dit non seulement rédaction, de texte, mais également écriture de texte. Là, je parle pour le juriste, pour l'étudiant en droit qui va être amené à lire et à écrire, d'une façon aussi pour le corps du droit, quelque part, de nous incorporer. Bon. Longtemps, le travail de documentation se concentrait sur le droit romain. Et on parlait d'ailleurs du corpus iuris civilis, c'est-à-dire le corps du droit romain. J'en parle pas puisque ça fait l'objet de la partie historique. Aujourd'hui, la documentation reste le problème central. Il y a, dans une très bonne introduction dont je donnerai la référence, on dit que la documentation juridique, c'est un monde en soi. Ce qui fait le juriste, c'est sa capacité à rechercher les écrits et également à savoir lire des textes qui sont compliqués, qui sont techniques. Bien. Ce même auteur disait que l'information juridique était une science, ou aussi un art. Bien. Alors, je vais prendre les choses comme j'ai entrepris de le faire, de manière à la fois très philosophique et en même temps extrême, le plus pratique et le plus concret possible. Bon. Donc, concrètement, le juriste ou l'apprenti juriste est confronté à des livres, ou à des textes, une décision de justice, ou l'acte d'un huissier, ou bref, un écrit qu'il peut avoir directement en main, ou qui peuvent être rassemblés. Alors, très, très concrètement, dans une librairie, par exemple, vous avez, et j'invite l'auditeur à visiter ce rayon, vous avez un rayon juridique, un rayon droit dans une librairie. De même, dans une bibliothèque, sans compter les bibliothèques spécialisées. Bon. Le droit est dans les livres, et même le pouvoir vient des livres. Je ne parle même pas du concept d'auctoritas, il n'y a pas d'autorité plus grande que celle des morts, et donc que celle des livres. Je parle de bibliothèque publique, mais il faut se constituer, lorsqu'on étudie le droit, très vite, une bibliothèque personnelle, une bibliothèque privée, qui peut être constitué d'un, deux, trois livres, c'est un début. Je peux déjà donner le premier livre qui doit figurer dans une bibliothèque de tout juriste, c'est d'abord un lexique des termes juridiques. Bon. Et puis vous pouvez travailler, vous travaillez forcément, c'est un travail, c'est une profession bourgeoise, juriste. Les premiers bourgeois sont les juristes. Vous avez le bureau, c'est un lieu de travail, c'est un lieu dans lequel vous allez étudier la documentation, la classer, avoir comme ici donc des livres. Ici nous sommes dans une bibliothèque. Bon. Ou bien si vous préférez, vous travaillez en bibliothèque. Donc voilà les lieux. J'en profite pour parler du du cas de l'apprentissage par cœur, parce qu'une légende court comme quoi les juristes savent tout par cœur. Bon. Il y a deux façons de voir cette petite légende, c'est soit effectivement ils ont tout appris ligne à ligne, hein, et certains savent quelques livres par cœur, mais certainement pas toute la bibliothèque du droit. Et puis il y a une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'un grand juriste, l'essentiel de ses archives, il les a incorporées dans sa poitrine. Voilà. Et là, on est sur un mystère. Alors, quand on avance donc dans le rayon soit de notre propre bibliothèque, soit d'une librairie, soit d'une bibliothèque publique, on est confronté à une classification. Et c'est l'occasion de parler des différentes matières à l'intérieur du droit et des différentes rubriques. Alors, la leçon numéro 1 qui portait sur l'État nous permet, si on a en tête les différentes branches du corps de l'État, essentiellement l'exécutif, le judiciaire et puis le législatif, de se retrouver dans les rayons d'une bibliothèque et de savoir, lorsqu'on a un livre en main, à quelle branche du droit il appartient. Alors, le législatif correspondrait à ce qu'on appelle le droit constitutionnel qui revient au droit public. Donc en fait, législatif et exécutif vont un peu ensemble. En droit public, on étudie donc la constitution de l'État. Donc ça, c'est un premier rayon, le rayon droit constitutionnel. Ensuite, en fonction, disons, des ministères, on a, pour ce qui est de toutes les affaires étrangères, on a le droit international. C'est un rayon en soi. Droit international, droit communautaire. On a également un rayon pour ce qui concerne les finances de l'État. Donc c'est un ministère dont j'ai parlé. Bien. Passons au judiciaire. Pour ce qui est de l'organisation des procédures, on a un rayon spécial pour les procédures. La procédure civile, la procédure pénale fait l'objet d'un rayon. Bon. J'ai parlé de la séparation entre droit privé et droit pénal. Enfin, c'est deux façons d'entendre le terme droit privé. Ça peut englober le droit pénal ou constituer une subdivision qui s'oppose au droit pénal. Hein. Vous avez un rayon, donc, droit pénal. Et puis, vous avez à l'intérieur du rayon droit privé, au sens strict, le droit social, c'est-à-dire le droit du travail. Et en général, un rayon droit privé englobe encore toute une spécialisation des rayons. Vous avez le droit commercial, et ça correspond à ce qui revient aux tribunaux de commerce. En réalité, l'organisation de l'État se retrouve dans l'organisation des bibliothèques et des rayons. Donc vous avez le droit commercial, le droit social, j'en ai parlé, et le droit civil. Tout ce qui relève de la compétence du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance, est dans les rayons du droit civil. Alors, on peut ensuite entrer dans les détails. Et les détails de la subdivision, notamment du droit civil, correspondent à des spécialisations que l'on retrouve dans les juridictions. Par exemple, vous avez le droit de la famille et vous avez des juges aux affaires familiales. Vous avez le droit des successions, etc. Donc, il faut faire attention dans les bibliothèques que souvent on utilise les classifications étrangères, la classification DOE, qui n'est pas très adaptée au droit français, mais il faut la connaître quand même. Et c'est à peu près celle que je viens de vous égrener. J'ai eu dans ma carrière à constituer moi-même une bibliothèque et j'avais adopté, je vais vous lire les rubriques pour vous familiariser en même temps avec les matières. J'avais mis droit civil, droit commercial, droit du travail, droit social, droit rural, droit médical, droit fiscal, droit international privé, droit judiciaire privé, c'est la procédure. Droit pénal, droit constitutionnel, droit administratif, droit international public, droit comparé, droit canonique et ecclésiastique, histoire du droit, théorie et philosophie du droit. Voilà comment les choses se font. Alors, imaginons que nous approchions d'un rayon en particulier, par exemple le droit civil. Ensuite, il faut envisager les livres et les sources, les documents devant lesquels on se trouve, d'une autre manière, disons. Hein. Je passe hein, sur la division des matières qui peut être développée ensuite, ou dont on peut trouver les développements à l'intérieur de chaque discipline ensuite. Hein. Alors vous pouvez avoir ce qu'on appellerait, disons, des sources authentiques. Vous avez par exemple l'exemplaire d'une décision de justice. Là, c'est un document qu'on trouvera rarement en bibliothèque, mais j'en parle parce que on peut le trouver dans un centre de documentation. Là, c'est la source directe. Donc, je reviendrai plus tard sur la façon dont on rattache les écrits à leur source. Là, c'est surtout la façon dont la littérature juridique est organisée dont je veux vous dire un mot. Hein. Alors, il se trouve que vous avez une. Comment dire? Vous avez une organisation des ouvrages. On va commencer par les ouvrages didactiques. Et c'est d'ailleurs comme ça, quand vous faites une recherche, qu'il faut commencer. Il faut commencer par le plus simple avant d'aller au plus compliqué. Et dans les ouvrages didactiques, c'est-à-dire les ouvrages d'enseignement, hein, vous avez d'abord des ouvrages extrêmement succincts, des mémentos, des aides-mémoires, mais qui ne sont pas inutiles parce qu'ils vous permettent de vous faire une première vue, d'avoir un premier aperçu des matières. Rapide. Mais ceci étant, il faut se méfier de ce qu'on trouve dans ce genre d'ouvrage. Plus approfondi, vous avez les précis et les manuels qui correspondent à ce que les enseignants, à l'enseignement dispensé dans les universités. Précis et manuels, on peut ranger dans cette catégorie des cours de droit, des cours manuscrits ou des cours dactylographiés qui correspondent à ce qui est enseigné. Bien. Et puis, plus approfondi, dans le domaine de didactique, on a les traités. Les grands traités sur une discipline, un grand traité par exemple en droit pénal, ou des traités sur le droit de la presse, ou sur. Bon. Ça, ce sont des ouvrages qu'on pourrait dire doctrinaux. Bien. Dans un genre voisin, toujours doctrinal, vous avez des ouvrages de recherche. Vous avez les thèses écrites dans les universités. Mais si vous avez un problème juridique à propos d'un procès, il peut être intéressant, dans certains cas, d'aller jusque dans une thèse, en utilisant évidemment l'index des matières ou la table des matières, pour trouver les informations qui vont vous aider à résoudre votre problème, ou à trouver des arguments, ou à avoir un état de la matière. Ben. Vous avez d'autres ouvrages, comme des mélanges, et puis plus loin, vous avez aussi des revues juridiques. Hein. Toutes les semaines, il y a des revues hebdomadaires, il y a des revues mensuelles, il y a des revues semestrielles, il y a des revues annuelles, où les auteurs écrivent sur des questions, sur des thèmes, sur des. Voilà pour un premier type de littérature. Ensuite, vous avez des instruments plus directement utiles, à commencer par alors, les codes. Alors, il faut distinguer. Là, je vais en reparler tout à l'heure. De même, je parlais d'une décision de justice. Bon. Le code, c'est un acte du pouvoir exécutif qui met en ordre les règles de droit selon une matière. Alors là, on retrouve les mêmes catégories, hein, droit civil, droit du travail, droit pénal, droit commercial, etc. Hein. Bon. Il rassemble les lois sur une question. Bon. Et ensuite, cette loi, elle est éditée par des éditeurs privés qui nourrissent la loi de références à d'autres ouvrages et de commentaires. Et ce sont ces ouvrages-là qui sont très pratiques, parce qu'ils indiquent, d'abord, ils résument la matière. Souvent, on peut se contenter, pour connaître une question, de lire la loi et d'avoir un petit commentaire, d'avoir le résumé d'une décision de justice, et il y a toujours la référence qui permet d'aller dans d'autres documents chercher la suite. Mais l'instrument qu'on trouve sur la table de tous les avocats et même des magistrats, ce sont les fameux codes. Alors, il y a deux éditeurs, enfin, il y a surtout Dalloz et l'autre éditeur que, pour ma part, je ne pratique pas, je crois que c'est Siret. Enfin, bon. Mais les plus connus sont les codes rouges. Voilà. Ça, c'est l'instrument élémentaire. Bon. qui renvoie donc à d'autres textes dont je parle maintenant, qui renvoie à des encyclopédies juridiques, qui sont, alors là, qu'on peut trouver chez des notaires ou des avocats, ou dans les bibliothèques, il y a un rayon spécial avec le répertoire Dalloz, avec l'encyclopédie juridique Dalloz, avec le jurisclasseur. Et là, ce sont de vastes monuments, en fait, qui sont des instruments de travail et de documentation, qui sont mis à jour constamment et qui permettent d'approfondir les connaissances et d'aller aux sources. On a également, c'est le troisième, après les codes, les encyclopédies et répertoires, on a les recueils de jurisprudence. Une difficulté dont il faut tenir compte et qui exige précisément cet effort de classification et de hiérarchisation, c'est que dans un recueil de jurisprudence, vous allez avoir à la fois la décision du juge et en même temps des commentaires, des références à des textes, des extraits de textes. Sans compter, sans même parler du fait que à l'intérieur même de la décision du juge, il va être vont être cités des lois et des avis de doctrine, etc. Ce qui oblige à faire une autre sorte de distinction, de catégorisation, c'est du point de vue du contenu des écrits que l'on a devant les yeux, d'arriver à hiérarchiser, à reconnaître à chaque texte sa valeur exacte. C'est la question de ce qu'on présente parfois comme étant la question de la hiérarchie des normes. Il faut identifier la source. Et là encore, ça renvoie à l'architecture de l'État, c'est-à-dire qui parle. Bon, et lorsque c'est une loi qui est promulguée par le président de la République, il est clair qu'il s'agit donc d'une loi. Ce n'est pas la même chose que lorsque c'est un décret ministériel, parce que d'ailleurs, la loi est supérieure au décret. Vous avez la possibilité de tomber sur un recueil de coutumes. Donc là, on est sur la deuxième grande source du droit. Après la loi, on a la coutume. Bon. Quand c'est une décision qui vient du Conseil constitutionnel ou de la Cour de cassation ou du Conseil d'État en matière contentieuse, on est dans la jurisprudence. Donc on est dans des décisions qui n'ont de valeur que pour le cas dont elles s'occupent. Alors que la loi a un rapport avec. Enfin, a une portée générale. Bon. Donc ça, c'est aussi un effort qu'il faut faire dans la documentation. De classification. Bon. Et je reparle à nouveau de cette clé de distinction, la distinction entre auctoritas et potestas, parce qu'il faut arriver à identifier la valeur doctrinale également d'un écrit. Lorsque c'est un auteur qui donne son opinion, on n'est pas dans le même registre que lorsqu'on est dans le cas de la loi. Et de même qu'une loi, elle a une valeur lorsqu'elle s'applique. Lorsqu'elle est applicable, mais elle prend une autre dimension lorsque c'est une loi du passé. Elle prend alors précisément valeur doctrinale. Bon, et en tant que opinion doctrinale, la loi peut présenter autant d'intérêt que la vie d'un auteur, et elle est tout aussi critiquable d'ailleurs. Bon, et dans sa dimension de doctrine. Un arrêt d'un juge, l'arrêt d'un juge ou une loi est également sous cet angle-là critiquable. C'est-à-dire, on ne peut pas s'opposer à la décision d'un juge qui vous met en prison, mais on peut la critiquer. On peut estimer que le raisonnement ne tient pas, quoi qu'il soit exécutoire. Bon. Donc, ces clés de classification, de discrimination, de distinction sont importantes. Pour le travail d'information et de documentation. Je n'ai pas parlé de l'aspect de l'informatique. L'informatique est un outil extraordinaire pour accéder aux sources, mais ça rend d'autant plus important le travail de discrimination, parce que tout apparaît dans le cadre du même écran. Et il faut donc veiller à bien identifier la source. Et la nature de la source que l'on est en train de dont on enregistre l'information, hein. Et ça me permet de terminer cette seconde leçon par un point important par rapport à la documentation, qui est celui des abréviations. Mais ça, dans toutes les disciplines, il y a des abréviations d'usage, mais il y en a énormément en droit. Et donc, il y a une difficulté d'approche lorsque l'on ne connaît pas les abréviations. Et il y a également un deuxième point, c'est celui des références. C'est-à-dire qu'on identifie des sources auxquelles on renvoie par un réflexe de... Il est fait référence. Bien. Alors, ça, c'est un problème pour le lecteur quand il découvre les textes, mais ça doit surtout être une préoccupation pour l'auteur. C'est-à-dire, si, quand vous accédez à de la documentation, vous allez avoir à prendre des notes. C'est-à-dire, pour chaque question, vous allez devoir noter les idées qui apparaissent dans tel... Et surtout, vous allez devoir faire référence à votre source. Sinon, l'idée que vous allez noter, elle est noyée dans l'océan absolument indifférencié du droit. On ne sait pas si c'est un juge, le législateur, tel ou tel auteur, ou vous qui parlez. Donc il est très important en matière juridique de faire attention aux références que l'on prend et à la manière de prendre les références dans un système qui consiste très concrètement à noter la référence sous chaque idée. Que ce soit de manière papier, sur chaque feuille de papier, on a une idée avec sa référence, ou de manière informatique. Voilà, j'ai terminé pour cette seconde leçon. Et la leçon suivante porte sur le contenu, hein, puisqu'on va parler du vocabulaire, et ensuite on parlera de la méthode pour interpréter les textes.
Ah, j'en profite juste par rapport à la précédente leçon donc sur l'organisation des institutions. Est-ce que tu peux juste, puisque la prochaine leçon c'est sur
Le
le
vocabulaire.
vocabulaire, est-ce que tu peux juste nous repréciser quatre termes
Oui.
qui sont liés d'ailleurs, dont certains sont peut-être des synonymes, mais qui créent un peu de confusion, c'est
Oui.
droit privé, droit public. Ou privé public
Oui.
et droit pénal, droit commun.
Oui.
Donc ces quatre termes, j'ai l'impression qu'il y en a
Oui.
qui sont ensemble,
Oui.
et pour moi,
Oui,
c'est voilà.
oui. Alors, la catégorie droit commun est...
Et civil aussi, droit civil.
Oui. Bon, de toute façon, de telles interrogations, j'ai presque envie de faire une réponse qui va peut-être pas te satisfaire. Mais tu es déjà dans l'étude quand tu te poses ces questions. Hein? Bon, parce qu'il y a quand même toute une histoire de ces catégories. Bon, je peux t'en dire un mot. Privé-public, c'est un monde, cette distinction. Hein? J'ai utilisé, c'est vrai, hier, un peu légèrement. J'ai d'abord parlé de privé pour le droit civil et droit commercial, etc. Puis après, j'ai... Parce qu'en fait, il y a un problème de classification avec le droit pénal. Parce qu'on pense parfois que le droit pénal revient au droit public, et d'autres fois, on pense qu'il revient au droit privé. Si on suit l'organisation judiciaire, c'est plutôt du droit privé. Bon. Mais dans la mesure où, en droit privé, normalement, ce sont des particuliers qui sont en conflit, alors qu'avec le droit pénal, c'est un prévenu qui est en conflit avec l'État, puisqu'il a commis des infractions. Ça ressort plutôt du droit public, parce que ce qui appartient au rapport entre le particulier et l'État, c'est le droit public. Bon. On est vraiment déjà dans la summa divisio, dit-on, c'est privé-public. Mais elle n'est pas simple. Hein?
Après, c'est civil pénal, c'est ça?
Alors, à l'intérieur du droit privé, on peut dire le pénal et le civil au sens large. Et le civil, à ce moment-là, englobe le commerce, le social et le travail, bon, etc. Mais il y a une autre acception du terme de droit civil qui engloberait même le public.
Et tu peux séparer pénal et civil pour expliquer
Ben, pénal et civil, le pénal, c'est donc tout ce qui est infraction. Lorsqu'un particulier commet des infractions à la loi pénale qui interdit certaines choses sous la menace d'une peine. Donc là, on est dans l'organisation qu'on a vue, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises. Hein? Et tout le reste du droit privé, disons, hein, à rapport, concerne les conflits entre des particuliers, qui ne concernent pas le pénal. Hein? C'est des demandes par rapport à des dommages causés, à des contrats interprétés. Mais il faut, encore une fois, je pense que c'est de mauvaise pédagogie que de faire croire aux gens qu'il y a un sens absolument figé. Parce que non seulement il y a des mots qui sont utilisés différemment par les uns et les autres, mais la chose désignée elle-même est mouvante et peut bouger. Alors, sur le droit commun, c'est typique. Le terme droit commun peut être utilisé pour désigner le droit occidental. On parle parfois du jus commune. Le droit commun peut désigner. En général, la catégorie droit commun permet de distinguer avec le droit d'exception. Il y a le droit commun, le droit d'exception. Alors, en droit pénal, à l'intérieur des sous-distinctions du droit pénal, on distingue par exemple les infractions de droit commun, c'est-à-dire la masse des infractions, avec les infractions politiques ou avec les infractions militaires. Bon. De même, en droit civil, on parle du droit commun pour le distinguer du droit commercial, du droit social. Le droit commun par excellence, c'est quand même le droit civil, à l'intérieur du droit privé.